Rencontre du troisième type est un film de science-fiction qui fit sensation au cinéma en 1977 et rencontra un immense succès pour le scénariste et réalisateur Steven Spielberg. Pour notre public plus jeune, ceux qui ne connaissent peut-être pas ce film, le personnage principal, interprété par Richard Dreyfuss, était un monteur de lignes électriques. À la suite d'une longue série d'événements trop complexes pour être relatés ici, il se retrouve face à des extraterrestres descendus à bord du vaisseau-mère d'un groupe d'objets volants non identifiés ou OVNI. Spielberg enchaîna 5 ans plus tard avec un succès encore plus retentissant, E.T. l'extraterrestre. Ce film de science-fiction raconte l'histoire d'un garçon nommé Elliot qui entre en contact avec un extraterrestre échoué qu'il baptise E.T. À la fin, Elliot aide E.T. à retrouver le chemin de sa planète. Rencontre du troisième type et E.T. l'extraterrestre sont bien sûr de pure fiction issue de l'imagination d'écrivains, de réalisateurs et de cinéastes. Mais savez-vous qu'une véritable rencontre avec des extraterrestres est relatée dans les pages de la Bible ? Dans cette émission du Monde de Demain, je vous présenterai le récit de la rencontre du troisième type d'Ézéchiel. Je vous expliquerai quel message lui fut adressé et quelle est sa signification pour vous et pour moi. Je vous proposerai également une ressource importante, alors restez à l'écoute car je serai de retour d'ici 5 secondes. Nous vous souhaitons à tous une chaleureuse bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de Demain et de l'Église du Dieu vivant qui parraine cette émission. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Le prophète Ézéchiel dans la Bible eut une étrange vision de créatures vivantes et de roues imbriquées les unes dans les autres. De nombreuses explications ont été avancées concernant ces roues, mais le message transmis à Ézéchiel est presque universellement ignoré ou incompris. Dans cette émission, je vous révélerai le contenu de ce message, à qui il s'adresse et quand il doit s'accomplir. Je n'ai pas le temps de lire le passage dans son intégralité, j'espère donc que vous ouvrirez votre Bible pour le lire vous-même, mais pour l'instant, lisons ce qui a dû être un spectacle effrayant à partir d'Ézéchiel chapitre 1 et au verset 4. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants. L'apparence de ces extraterrestres est décrite dans les versets suivants, remarqués à partir du verset 5, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Qui étaient ces créatures ? Le chapitre 10 au verset 1 répond à cette question. Il s'agissait de chérubins, d'êtres angéliques de très haut rang, que l'on voit à bord d'une sorte de véhicule dirigé par un autre être spirituel. Nous verrons dans un instant de qui il s'agit, mais remarquez comment cet objet semble se déplacer, changer de direction, défiant les lois de la physique telles que nous les connaissons. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 9. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche, et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Ézéchiel décrit ensuite un phénomène qui intrigue beaucoup de monde, des roues imbriquées les unes dans les autres. Les hypothèses vont bon train, certains pensent que ces roues sont des anges, d'autres qu'il s'agit de gyroscopes, semblables aux toupies avec lesquelles beaucoup d'entre nous ont joué dans leur enfance, la roue intérieure assurant la stabilité. Je regardais ces êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Ce sont en effet des créatures étranges, qui ne ressemblent manifestement ni à E.T., ni à quoi que ce soit d'autre créé par Hollywood. Que vit donc Ézéchiel au cours de cette rencontre? D'où venaient ces créatures? S'agissait-il d'un ovni provenant d'une planète lointaine? Il n'y a pas lieu de spéculer, car la Bible s'interprète elle-même. Le verset 1 du chapitre 1 nous le dit en termes clairs. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La vision donnée à Ézéchiel était apparemment celle d'un trône de Dieu mobile, ce qui est confirmé plus loin dans le chapitre. Notez le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est-à-dire les têtes des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Remarquez maintenant la réaction d'Ézéchiel lorsqu'il vit le trône et celui qui y était assis. Verset 28. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. La vision d'Ézéchiel était exactement cela, une vision de Dieu. Une vision de Dieu sur un trône mobile. Rien n'indique que quelqu'un d'autre ait témoigné de cette vision. Car comme nous le lisons au chapitre 1 et au verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur. Si beaucoup sont intrigués par cette étrange rencontre, presque personne ne comprend le sens profond du message adressé à Ézéchiel. Reprenons notre lecture au chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dieu n'eut pas des mots tendres pour le public vers lequel Ézéchiel était envoyé. En plus de les qualifier d'enfants impudents et endurcis, il les qualifia également de rebelles. Versets 5 à 8. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Mais qui étaient donc exactement ces rebelles obstinés? Presque tout le monde pense que ce message s'adressait aux Juifs. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, et cette mauvaise compréhension est cruciale. Reprenons au verset 9. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Nous arrivons maintenant au chapitre 3, où Ézéchiel reçut l'ordre de manger le rouleau, et où est révélé à qui il devait adresser son message. Chapitre 3 et au verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Remarquez qu'il devait se rendre auprès de la maison d'Israël. On lit ensuite qu'il mangea le rouleau, et que celui-ci était doux comme du miel dans sa bouche. Puis il lui fut de nouveau ordonné de se rendre auprès de la maison d'Israël pour lui transmettre le message de Dieu. Commençons au verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours, Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Ce message s'adresse sans ambiguïté à un peuple bien précis, la maison d'Israël. Pourquoi est-ce important et quel est le rapport avec le message? Même les théologiens, malheureusement, ignorent à qui s'adresse ce message. Tous ceux qui étudient sérieusement la Bible connaissent la séparation qui se produisit entre les 12 tribus d'Israël. Vous pouvez lire ce récit dans 1 Roi chapitre 12. Après la mort du roi Salomon, son fils irréfléchi, Roboam, refusa d'alléger le fardeau fiscal sur le peuple d'Israël, ce qui poussa 10 des 12 tribus à se rebeller et à se donner leur propre roi, ne laissant derrière eux que les tribus de Juda, d'où provient le nom juif, et de Benjamin. Par la suite, on trouve dans les Écritures l'histoire de deux nations distinctes, la maison de Juda et la maison d'Israël. Ézéchiel était de la maison de Juda, un captif juif emmené à Babylone avant la chute de la maison de Juda aux mains du roi Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Ainsi, s'il côtoya ses compagnons de captivité de la maison de Juda, rien n'indique qu'il eut le moindre contact avec la maison d'Israël, qui avait été emmenée depuis fort longtemps en captivité vers le nord. Pourtant, son message s'adressait clairement à la maison d'Israël. Il fut même appelé « sentinelle » pour ces 10 tribus du nord de la maison d'Israël. Remarquons à nouveau Ézéchiel chapitre 3 et au verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Le message adressé à Ézéchiel contient des implications importantes pour vous, mais aussi pour le monde entier. Toute lecture des livres des rois et des chroniques montre que les Juifs et les Benjamites constituaient principalement la maison de Juda, tandis que les 10 autres tribus d'Israël étaient désignées sous le nom de maison d'Israël. Ézéchiel commit-il une erreur de transcription? Ou bien, en tant que Juif, confondit-il ces deux nations distinctes? Ézéchiel fut emmené à Babylone lors de l'une des premières déportations de captifs juifs, mais la ville de Jérusalem tenait toujours bon. Nous lisons dans les premiers versets du chapitre 4 que le prophète devait dépeindre sur le sol le siège de Jérusalem. Mais reprenons au verset 3. « Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. » Lisez attentivement la suite de ce verset. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Comme c'est étrange, la description du siège concerne Jérusalem, la capitale de la maison de Juda, mais le signe s'adresse à la maison d'Israël, une nation différente. Ézéchiel, sans doute dans la confusion, ne connaissait pas la différence entre les deux maisons. Mais était-ce vraiment le cas? Ézéchiel, sans parler de Dieu, connaissait-il la différence entre ces deux nations distinctes? Poursuivons notre lecture au verset suivant. « Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. » Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Remarquez maintenant la suite de l'ordre donné au verset suivant. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ce n'est pas la seule distinction qu'Ézéchiel établit entre la maison de Juda, composée principalement des Juifs et des Benjamites, et la maison d'Israël, les 10 autres tribus. Au chapitre 37, il est question d'une époque qui nous attend encore, celle du retour du Christ. Ézéchiel reçut l'ordre de prendre 2 pièces de bois et d'écrire dessus dont l'une des pièces représentait Juda, la tribu principale de la maison de Juda, et l'autre, Éphraïm, la tribu principale de la maison d'Israël. Il devait ensuite les réunir dans une seule main. Lorsque le peuple lui demanderait ce que cela signifiait, il devait répondre « Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, Je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Notez bien cela. Ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Les deux nations n'ont jamais été réunifiées depuis leur séparation. Alors quand cela se produira-t-il? Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ce texte fut rédigé bien après la mort de David, évoquant un futur après la résurrection des saints lorsque le Christ règnera ici-bas. Par conséquent, tant la maison de Juda que la maison d'Israël doivent encore bel et bien exister de nos jours. Nous avons lu dans le dernier segment au sujet de la mission qui lui fut confiée par Dieu, au chapitre 3, verset 17. « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Cette mission est expliquée plus en détail au chapitre 33, à partir du premier verset. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Jusqu'ici, tout va bien. Cette mission n'a rien de mystérieux. Cependant, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Le verset suivant reste mystérieux. Je vais vous lire le verset 7, puis je vous l'expliquerai. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ézéchiel fut désigné par Dieu pour être une sentinelle, non pour la maison de Juda, mais pour la maison d'Israël. Il devait les avertir de l'arrivée d'une épée sur le pays. Mais voici le problème. Plus de 100 ans auparavant, la maison d'Israël avait déjà été emmenée en captivité en Assyrie. Ce qui ne nous laisse que deux conclusions possibles. Numéro 1, Dieu tarda à transmettre le message au peuple auquel il était destiné, ce qui est difficile à imaginer. Ou numéro 2, Ézéchiel consigna par écrit le message pour être transmis par d'autres bien plus tard avant une future captivité à venir. Comme nous l'avons lu, la maison d'Israël existera en tant que nation distincte au moment du retour du Christ. Par conséquent, ce message doit être transmis par une personne ou un groupe de personnes à la fin des temps qui saura quelle nation constitue la maison d'Israël des temps modernes. La leçon numéro 4 de notre cours de Bible du monde de demain fournit la clé qui permet de percer ce mystère. Elle s'intitule « Révéler la clé maîtresse des prophéties bibliques ».